Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est pas vraiment un interview comme d'habitude, mais c'est un invité qui va nous parler d'un sujet particulier. Donc aujourd'hui, on va parler de la thérapie archétypale et j'ai le plaisir de recevoir Bernard Chomeil. Bonjour Bernard.
Bonjour Ludovic, merci.
Bernard, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou les gens qui vont regarder ces vidéos, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui es-tu? Quelle est ton activité
D'accord, bah écoute, je suis thérapeute, analyste et énergéticien. Ça, c'est trois appellations qui résument mon activité. Thérapeute parce que j'accompagne les gens dans toutes les histoires de la vie qui sont nombreuses, de la maladie à la séparation, aux naissances, donc des belles choses, des choses difficiles, des choses éprouvantes. Donc le thérapeute, l'analyste, eh ben, parce que j'analyse les histoires, j'analyse à travers le temps, à travers l'histoire individuelle, à travers l'histoire familiale, à travers l'histoire collective aussi, parfois à travers l'histoire transpersonnelle. Et puis énergéticien, parce que je travaille en même temps sur la libération de la mémoire cellulaire. Donc j'ai fait un mixte entre l'analyse, plutôt tendance jungienne, donc avec une ouverture d'esprit, une spiritualité, un regard global, holistique, et puis une libération énergétique avec une technique de soins énergétiques qui est associée à l'analyse de la thérapie archétypale. Voilà, en gros, je suis à Deauville et puis j'enseigne depuis 30 ans maintenant. J'ai écrit un petit peu et puis voilà, et puis on poursuit le chemin ensemble.
Merci pour cette présentation un peu courte mais super. Donc aujourd'hui avec toi on va parler thérapie archétypale. Donc Bernard, qu'est-ce que c'est que la thérapie archétypale?
Alors, c'est une thérapie qui est, c'est un concept analytique déjà à la base. Donc c'est sérieux, c'est pensant, c'est structuré, c'est une approche d'analyse thérapeutique qui est basée sur l'idée que nous avons tous dans cette humanité, quel que soit l'endroit où l'on vit dans cette humanité, que nous avons tous affaire à des problématiques humaines. J'en ai classé 22 et que ces problématiques humaines ben, nous jouent des tours, nous emportent dans des tourbillons, nous provoquent des blessures et alimente une espèce de corps de souffrance qu'on porte comme ça dans nos vies, de génération en génération souvent, de lignée en lignée, masculine, féminine, et aussi de civilisation en civilisation, de groupe de personnes en groupe de personnes. Et donc ce concept analytique basé sur ces 22 problématiques a pour originalité d'y avoir associé 22 ressources. C'est-à-dire qu'à chaque problématique classée, identifiée, il y a une ressource qui se dessine derrière. Par exemple, la tristesse et la joie, par exemple, l'incapacité, l'absence de pouvoir, et puis la prise de pouvoir, par exemple, la reconnaissance dans son aspect positif et la non-reconnaissance, l'indifférence, l'exclusion, etc. Donc il y en a 22 comme ça. Je me suis amusé en 30 ans à classer ces archétypes, à les identifier. Et puis à mettre en place une approche analytique de passage de la problématique à la ressource. Ça s'appelle la dynamique archétypale et c'est on va dire, c'est le vivant du concept analytique qui s'appelle la thérapie archétypale parce qu'on soigne des archétypes, hein. Ces 22 problématiques et 22 ressources sont des formes pensées alimentées par des émotions, des actions, des réactions, des expériences humaines, etc. Donc, elles sont vraiment présentes, que nous, on soit présents ou pas, elles existent. Donc, ce sont des entités universelles, vivantes. Donc, en ce sens-là, elles correspondent à la définition des archétypes. Mais ce sont des archétypes socialisés, c'est-à-dire que ce soit des archétypes mythiques, idéologiques, ce sont vraiment des archétypes appliqués au vécu de tout le monde. Voilà, donc j'ai mis en place ça il y a une trentaine d'années quand j'ai fait moi-même un travail analytique et que je me suis dit que c'était bien de comprendre l'histoire, mais que j'avais envie d'y mettre un brin de lumière, d'associer en fait mon parcours thérapeutique avec un parcours spirituel et donc de rechercher à aller mieux, mais en le faisant, pas en ne faisant que cibler ce qui n'allait pas, en cherchant ce qui irait bien si ce qui n'allait pas n'était pas là. Donc en fait, c'est un travail d'ombre et de lumière, c'est un travail de rencontre de la problématique et de la ressource, et il y a une approche au-delà du concept. Il y a une approche qui permet d'aller fouiller dans l'ombre, de décortiquer l'ombre, d'oser l'aborder, ce qui n'est pas toujours chose facile. Et puis, c'est d'autant accessible qu'on aura trouvé la ressource qui est derrière, la lumière qui est derrière, c'est-à-dire pour un thérapeute ou pour un patient, ou pour une patiente et une thérapeute, de pouvoir faire tout un travail sur soi en se disant qu'on va vers la lumière, c'est beaucoup plus agréable à faire que ne faire que soigner ce qui ne va pas. En gros, c'est ça. Je te laisse poser des questions si tu veux pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs et nos auditrices. Mais l'idée de base, c'est que c'est un concept, la thérapie archétypale, c'est un concept analytique basé sur 22 problématiques, 22 ressources. Ces 22 problématiques ressources sont les entités à part entière qu'on peut appeler les archétypes. Et donc, elles portent le nom de thérapie archétypale parce qu'en fait, l'idée, c'est de soigner des archétypes d'humanité. Hein, c'est une thérapie, on va dire, humaniste, hein, parce qu'on soigne des individus, mais pour soigner des schémas de fonctionnement, pardon, on va soigner 20 dépendants pour soigner la liberté. On va soigner 20 dépressifs pour soigner la joie. On va soigner des gens qui n'arrivent pas, un groupe de gens qui n'arrivent pas à prendre leur place, à utiliser leur talent pour que le pouvoir soit à disposition de la majorité. C'est ça un peu l'idée et l'ambition de cette thérapie.
Ce qui me venait, c'est un peu ce que tu as dit là, mais c'est qu'en fait, c'est vrai que si on cible que l'ombre et que ce qui ne va pas, j'ai l'impression que quelle que soit la thérapie, quel que soit le processus, il n'y a pas de résolution. Parce que quelqu'un qui n'a le nez dans le guidon que dans les choses qui ne sont pas allées dans sa vie, il ne peut pas shifter, en fait. On a besoin de voir quel est le potentiel qu'il y a eu derrière la blessure, quoi. Qu'est-ce que ça a créé?
C'est
J'ai
ça. Je pense
l'impression que
qu'il y
c'est
a,
un peu vital, quoi.
voilà, il y a cette idée que tu soulèves qui est complètement légitime. Et puis il y a l'idée aussi que la vie est probablement le bon sens d'être vivant sur cette planète n'est pas n'alimenter que la souffrance et que ce qui ne va pas, mais c'est de profiter de la vie. Et puis pour profiter de la vie, ben, il faut pouvoir exprimer, manifester, jouir, on pourrait dire même, des bienfaits de la vie et donc des choses qui sont à notre disposition. Je pense qu'il y a des ressources qui sont à notre disposition sur cette planète et qu'on est un petit peu, je dirais pas condamné, mais en tout cas un petit peu verrouillé dans un schéma de fonctionnement avec les problématiques qu'il faut toujours gérer, alimenter, payer, nourrir d'une manière ou d'une autre par nos émotions, par tout un tas d'appartenances, par tout un tas de réactions, etc. Et donc finalement, tout notre vivant, il est orienté sur la chose qui ne va pas. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être désinvestir un peu de cette énergie pour pouvoir la porter sur un investissement qui redonnerait de la vie, de l'énergie aux choses qui vont bien, et donc passer moins de temps dans les problèmes et un peu plus de temps dans la ressource. C'est un changement de pôle d'énergie, hein, carrément, hein, c'est vraiment ça, quoi. Ça changera rien dans notre façon d'être et dans notre façon de vivre. Ça nous exige pas de faire de mettre les pieds au mur et de faire des trucs de dingue pour y arriver. Ce n'est pas du tout illusoire et techniquement un rêve ou une dimension spirituelle inaccessible. C'est complètement, simplement un changement de stratégie. Voilà. J'utilise ma journée, du matin où je me réveille jusqu'au soir, pour donner de l'énergie à ce qui pourrait être bien, à ce que je sens que je suis capable de faire, et j'en donne beaucoup moins et de moins en moins à tout ce qui m'ennuie et qui me verrouille dans ce que certains appellent l'ombre, que certains appellent les problématiques, l'inconfort, le malheur, etc.
Alors moi j'ai ton livre sur le tarot des archétypes hein, que j'ai acheté il y avait quelques années et que parce que j'étais dans une dynamique aussi en lien avec le monde archétypal. Et quand tu parles de thérapie archétypale, est-ce que tu te bases que sur ces 22 archétypes Ou est-ce que tu en as plein d'autres enfin, que tu utilises aussi, ou comment ça se passe?
Alors, déjà, tu as parlé du tarot des archétypes. Donc, le tarot des archétypes, c'est donc un jeu de ressources humaines et de problématiques. Hein. L'éditeur, très Daniel, l'appelle le jeu de l'ombre et de la lumière, par exemple. Tu vois. Donc, c'est vraiment un jeu des ombres et des lumières, des ressources et des problématiques, qui est en fait une illustration symbolique du concept de thérapie archétypale. Donc, je ne sais pas si tu as lu le livre Thérapie archétypale ou si tu as lu le guide du livret qu'il y a dans le tarot.
Non, j'ai lu le livre Thérapie
D'accord.
archétypale il y a quelques années. Hein. Je ne
Oui,
me souviens pas du livre. Hein.
c'est sorti en 2000, je pense en 2003. Le tarot est sorti en 2003 et donc après, en 2008, il y a dû y avoir la thérapie archétypale qui est sortie. Et puis ensuite, ça a été réédité une fois, en 2015 par exemple, je crois pour les deux, le tarot et le livre. Et donc dans le livre, ben, on explique la stratégie de la thérapie archétypale. Et puis dans le tarot, on joue avec et on met en application un peu ludique. Mais en même temps, c'est très intéressant thérapeutiquement. Ça joue sur l'enfant intérieur, ça joue sur les images, sur la symbolique, sur le mouvement, ça surprend. Et donc, c'est intéressant à utiliser. Mais pour répondre à la question que tu as soulevée, il n'y a pas que 22 archétypes, bien évidemment. J'en ai identifié 22 principaux en référence au tarot classique et aux lames de tarot classique, les 22 lames majeures. Et bien évidemment, pour chacun des archétypes étudiés, il y a des sous-archétypes. C'est pour ça que dans la classification des archétypes, il y a les archétypes dominants, qui sont les 22. Donc, par exemple, la problématique de l'abandon et la ressource de l'appartenance, que j'ai symbolisé par un mot très simple qui s'appelle la famille. Mais si on est dans l'archétype famille-abandon, on peut se retrouver confronté par exemple, à l'archétype de l'adoption, à l'archétype de la séparation, à l'archétype de la mort, à l'archétype comment dire, l'expropriation, l'immigration, etc., qui vont provoquer la même blessure, toujours un sentiment de solitude, un sentiment de rejet par rapport aux autres et un vague à l'âme terrible de solitude, mais tous appartiennent tous vont aller dans le même sens de travailler en fait une seule chose, le sentiment d'appartenance. Être bien dans ce monde, comment on peut expliquer par exemple que quelqu'un viendrait dans ce monde, serait abandonné à la naissance, qu'il aurait pu avoir choisi ça, donc dès la naissance, dès les premiers jours de naissance, même parfois avant, se retrouver confronté à être un enfant donc de la DAS, un enfant qui n'a pas de parents, qui est orphelin et qui va ensuite avoir une vie compliquée parce il n'aura pas eu d'enfant, il va partir sur des fondements d'abandon, tu vois, et donc toute sa vie va être marquée par ça. Comment on peut aider quelqu'un comme ça en thérapie archétypale? C'est de lui faire comprendre que probablement ce qui lui est arrivé dès le départ, c'est un choix de vie. Il paraît étrange comme ça, mais il doit avoir du sens. Et on va chercher le bon sens de ce choix de vie, qui peut être tout simplement d'avoir la capacité plus que les autres à pouvoir trouver du bon sens à être dans notre monde aujourd'hui, par exemple en 2022, presque 2023, où on pourrait se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait là et quel est l'intérêt de ce monde, tu vois? Donc, quelqu'un d'abandonné, quelqu'un qui a vécu sans parents, quelqu'un qui ensuite a vécu plein de fois des difficultés de rencontrer une famille, un couple, qui a été probablement confronté à des désillusions, à des déconfitures, à plusieurs abandons successifs provoqués ou par la mort, la séparation, autre chose, ce qui est typique des expériences que l'abandonné va rencontrer sur son chemin. En fait, il a un état d'esprit à travers toutes ces épreuves de l'abandon, qui est la recherche d'être bien à sa place dans ce monde, au bon endroit, dans l'instant présent. C'est ça la thérapie archétypale.
Et justement, tu te sers de ces archétypes dominants et des sous-archétypes pour arriver à quoi? Identifier avec pertinence la problématique de la personne, de se dire,
Oui, c'est
OK,
ça.
quand je trouve plus ou moins la famille dominante de la blessure, et puis après de voir exactement ce qui se joue dedans pour, j'allais dire, aller alchimiser juste celle-là.
C'est ça,
Comment
par
ça
exemple,
se...
tu peux avoir quelqu'un qui vient pour une problématique de dépendance. Bon, il y a le choix, hein. La dépendance, c'est le carnaval de Venise, hein. Voilà, c'est peut être dépendant à plein de choses, mais ça reste l'archétype de la dépendance. D'accord? Donc, quelqu'un qui est dépendant, quelles que soient les dépendances, que ce soit du sexe, que ce soit de l'alcool, que ce soit de l'argent, que ce soit de la politique, que ce soit du sectarisme, que ce soit à la souffrance, toutes les personnes qui vivent l'expérience, on va dire, malheureuse de la dépendance, sont des gens qui recherchent la liberté. Donc, il se peut que dans leur famille, dans leurs ascendants, dans leur lignée, il y ait déjà des personnes qui ont travaillé cette dépendance, qui ont été dépendants, qui sont peut-être morts de dépendance. Et donc, toutes ces personnes-là, en fait, contribuaient à donner une énergie au travail de la liberté. Donc, si je reçois une personne qui est dépendante, qui a une famille qui a des éléments dépendants, alors moi, je sens, même si ce n'est pas simple, hein, je te dis ça comme ça, parce que j'y crois, mais bon, c'est une expression de foi, mais après, il y a le travail, hein, qui va avec, et pas toujours facile, qui met longtemps, qui peut très bien tomber à l'eau, avorter, etc. Mais dans l'idéal, on va dire que cette personne-là, pour moi, est en fait une âme qui a la capacité d'être libre. Elle a choisi un contexte de dépendance. Alors, on va les analyser et le thérapeute va voir sa propre dépendance à la personne en question qu'elle reçoit, le patient ou patiente, et l'analyser, voir que peut-être il n'en a pas qu'une, mais il en a plusieurs. Il ne savait pas qu'il en avait plusieurs, il croyait qu'il en avait qu'une. Les autres sont moins honteuses, donc du coup, on n'en parle pas. Et il va avoir la prise de conscience que ses parents étaient probablement dans des formes de dépendance, que donc il y a beaucoup plus d'impact de la dépendance dans son histoire qu'il croyait, hein. Et en même temps, on va lui annoncer, on va lui faire sentir, on va provoquer dans cette personne la reconnaissance que effectivement, ce qu'elle cherche est être libre. Et que donc, au fur et à mesure de ce travail de détachement des dépendances, des dépendants, elle va pouvoir se rattacher à quelque chose qu'elle choisit en toute liberté. Et son choix va faire qu'elle va vivre un archétype qui sera choisi et non pas un archétype qui est subi, comme c'est la majorité des cas pour les dépendances. Et donc, du coup, dans les personnes qui ont des dépendantes, par exemple, la tristesse, donc la dépression, le suicide, le vague à l'âme, le coup de blues, les burn-out, etc., on aura plusieurs indices qui vont nous montrer que, par exemple, la personne est bien dans une dépendance émotionnelle à la tristesse et à la dépression. D'accord? Donc, en fait, il faudrait arriver à lui donner envie d'être dans la joie de vivre et donc de libérer les états dans lesquels elle s'émet, les états réactifs dans lesquels elle se met, les idées qu'elle porte qui la mettent dans l'ombre et donc dans la tristesse, et provoquer peut-être quelque chose d'extraordinaire qui va lui permettre de trouver sa place et d'être heureuse. Mais on peut ressentir que dans cette dépendance à la tristesse, il peut y avoir quelque chose de plus fort encore que la tristesse, c'est l'envie de mourir, par exemple. Et là, du coup, on va se retrouver dans une thérapie qui n'est plus aider la personne à se défaire d'une dépendance, par exemple, à la tristesse, mais d'avoir envie de vivre. C'est autre chose. La dimension, elle est complètement décuplée, tu vois. Donc, on est parti d'une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie, qui se réveille tous les matins en se demandant pourquoi elle est là. Et puis en même temps, en discutant, on va se rendre qu'en fait, on va se rendre compte que cette personne, et elle va s'en rendre compte elle-même, en fait, elle est faite pour trouver des motifs au désir de vivre. Et c'est ça qui est important. Et donc, on sera passé d'une dépendance alimentaire, par exemple, à une inquiétude, comment dire, un état d'âme morbide, dangereusement morbide. Parce qu'en fait, si on ne traite que la dépendance à l'alcool, au tabac ou autre chose, mais qu'on ne voit pas qu'il y a en sous-jacent l'envie de mourir, alors on passe à côté de la juste thérapie. C'est pour ça que les archétypes englobent des sous-archétypes et que donc, du coup, il faut aller dans l'histoire, dans les recoins de l'histoire, j'ai envie de dire, il faut investiguer comme des journalistes, mais des bons journalistes, pas ceux qui annoncent ce qu'on veut entendre ou ce qu'on nous demande d'entendre, mais plutôt ceux qui se contentent de faire la liste des données pour que la personne en face puisse se faire son propre point de vue. mais en donnant le maximum d'informations qui
Bien.
amèneront à un moment donné à une décision.
En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un bon thérapeute, c'est un bon enquêteur, quoi.
Ah oui, quoi, carrément. Pour moi, c'est un bon enquêteur et il sera d'autant bon thérapeute qu'il prend le temps, qu'il regroupe les données, qu'il ne s'affole pas sur le verdict et sur la première idée, qu'il ne va pas donner un jugement ou une critique, qu'il ne va pas avoir peur de ce qu'il voit, parce que des fois, on est freiné par des choses qui résonnent en nous, on est freiné par des choses tragiques, on ne supporte pas certaines choses qui sont en dehors de notre éthique, par exemple, qui nous font honte et tout ça, ou qu'on ne gère pas, avec lesquels on est mal à l'aise. Et donc, un bon thérapeute, il est capable de tout entendre, de ne pas prendre position, d'être dans une vraie compassion et bienveillance, et avec beaucoup de patience. Et voilà, donc pas facile, hein. Je ne dis pas ça parce que je pense qu'on est tous avec toutes ces qualités, bien évidemment, on apprend. Aller travailler au fur et à mesure qu'on rencontre nos patients et nos patientes, et ce sont eux, en fait, qui nous amènent à nous transformer, nous, thérapeutes. Mais en tout cas, pour aller dans ton sens, la thérapie archétypale est une belle thérapie pour les thérapeutes, parce qu'elle leur permet d'associer l'analyse, la curiosité, les techniques différentes de thérapie qui existent en synergie. Il n'y a pas une vérité absolue. Tu vois, tu peux avoir fait du Gestalt, tu peux avoir fait du freudien, tu peux avoir fait du lacanien, tu peux avoir un regard holistique, tu peux utiliser les plantes, tu peux ce que tu veux. Mais l'idée, c'est d'arriver à déceler ce qui ne va pas dans l'autre, dans le plus proche de la vérité, ce qui n'est pas toujours aisé, et ensuite de raccorder à ce qu'on a repéré qui n'allait pas. Ce qui pourrait aller si on changeait de branchement. Et d'entretenir les deux communications, aussi bien de défaire petit à petit les choses qui sont liées à la problématique, par des détachements, des lâcher-prise, des pardons, des prises de conscience, etc., qu'en construisant le bien-être dans sa dimension ressource, c'est-à-dire en donnant de l'énergie aux ressources au fur et à mesure qu'on est en thérapie. Tu vois, par exemple, quelqu'un de malade, j'ai eu quelqu'un ce matin qui était touchant, de 40 ans, un instit, donc un monsieur qui est lié à beaucoup de systèmes, le système socio-éducatif, le groupe sociétaire des enfants et des parents, ce qui n'est pas simple, et en même temps, tout ça dans la coupe de l'éducation nationale, donc pas évident. Et ce monsieur-là, en fait, il a une série de blessures pathologiques depuis l'âge de 27 ans, un cancer des testicules, le cancer des testicules a récidivé, puis après il y a une maladie de Lyme qui s'est mise là-dedans, en tout cas qu'ils ont décelé, enfin bref, un parcours thérapeutique très éprouvant dès l'âge de 27 ans jusqu'à 42 ans. Et ce monsieur a une grosse problématique avec le père qui était un monsieur violent, qui était un monsieur avec plein de dépendances. Et il faisait tout pour ne pas lui ressembler, pour ne pas tomber dans les dépendances qui pourtant, intelligemment, il a senti proche de lui. C'est-à-dire qu'il avait des tendances à avoir le comportement du père. Donc, il a choisi un métier pour s'occuper des enfants, les protéger. Mais par moments, il peut être en colère. Et donc, il se dit, oh là là, il faut pas que je me laisse aller, sinon je vais être comme mon père. Donc, il a une éthique, il a des règles. Il s'est, comment dire, ajusté par des... Par une morale chrétienne, catholique, par tout un tas d'idées assez confortables et rigides en même temps. Et je pense que ce monsieur, il est fait pour être libre et donc pour ne pas croire comme les autres. Donc, il en est à un stade aujourd'hui dans sa thérapie où il est en train de comprendre que s'il veut guérir de sa maladie, il faut qu'il ose croire autrement. Il faut qu'il ose croire autrement. C'est-à-dire que un personnage comme ça, il a pu détester son père et idolâtrer Dieu, par exemple.
Oui.
Vois? Mais ça reste la même
Oui.
chose. Le patriarcat, c'est une autorité. Et donc, il faut qu'il s'affranchisse des deux, aussi bien du père que du père spirituel, pour qu'il soit le père de sa vie. Et là, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. En fait, il faut qu'il ose croire autrement. Mais croire autrement, ça veut dire transgresser des croyances. Ça veut dire prendre des risques, Ça veut dire voir un peu plus loin, hein, que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, par exemple, en l'occurrence pour lui, sa maladie, c'est un enseignement. Il a le sang, les nerfs et des organes d'identité qui sont touchés. Et il faut qu'il transforme son identité sur les traces de ses ancêtres.
Dans cet exemple-là, quand tu parles de qu'il y a l'autorité du Père et de Dieu, ça veut dire qu'il faut aussi que son idéal projeté s'effondre. Parce que tant qu'il y a l'idéal de l'image de Dieu au-dessus de lui, il faut qu'il fasse tomber. Ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il fasse tomber cet idéal pour qu'il puisse incarner sa vie et être son propre Père. Donc
Exactement,
il y a
c'est
aussi.
ça. C'est vraiment ça. Là, il s'est rendu compte que la notion de bien et de mal dirigeait toute sa vie, par exemple. Pour ne pas tomber dans le mal, il fallait qu'il soit hyper discipliné. Pour ne pas tomber dans les instincts qu'il avait spontanément de par son héritage, il fallait qu'il se donne des codes de conduite. Et donc, jusqu'à maintenant, il a fonctionné avec ça. Et en fait, là, il sature, il est dans une saturation de son conditionnement. Et la saturation lui est signifiée par vas-tu guérir ou pas? Il a commencé quand même à risquer sa vie à 27 ans, tu te rends compte, c'est énorme. Et à 40 ans, il a eu un parcours thérapeutique encore très incertain, très indécis. Donc en fait, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas fait pour mourir, parce que franchement, ça serait fait, quoi. Il est fait pour guérir. Mais pour guérir, il lui manque quelque chose. Et le quelque chose, c'est de s'affranchir d'une autorité, quelle qu'elle soit, malveillante ou bienveillante, mais au-dessus de sa tête.
Donc ton travail thérapeutique se base en lien avec les archétypes, donc comme tu nous l'as dit, mais est-ce que tu travailles aussi avec les archétypes, j'allais dire, mythologiques?
Alors, c'est-à-dire.
Par exemple, moi, dans le travail que j'accompagne avec les, enfin, dans lequel j'accompagne les hommes, je travaille avec l'archétype, tu vois, du roi, du magicien, du guerrier, de l'amant, qui structure le masculin d'une certaine manière. Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais travailler avec des archétypes de, je sais pas, de Dieu, de,
Bien
tu vois,
sûr.
de.
Oui, je pense qu'on travaille sur les mêmes idées. Après, comment dire, les allégories qu'on va choisir ou les références qu'on va choisir, elles sont différentes. Mais par exemple, moi, je vais travailler beaucoup avec l'aspect de l'empereur. Le fou, le mat dans le tarot classique, c'est l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut encore. Il est capable de tout, mais il n'est pas encore dans une maturité. Ça, c'est vraiment
Le fou et le mat, tu le vois comme ça, toi.
Ah oui, le mat, il est puissant d'audace, de capacité, mais en même temps, faut il faut qu'il canalise son énergie parce que sinon, il peut faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le fou. L'empereur a 40 ans, qui est symbolisé à 40 ans, il doit avoir trouvé son métier, sa maison à peu près, son cadre, ce qu'il veut dans la vie, quoi. Mais tu peux avoir été un mat, comment dire, tout fou, un empereur. Établi et à un moment donné, et il y a beaucoup de gens qui le sont, beaucoup de thérapeutes qui le sont, devenir un pape, c'est-à-dire l'homme sage, l'homme passant.
Donc vu que tu travailles avec les archétypes, les vrais archétypes du tarot d'origine, tu as fonctionné, j'imagine, parce que si tu m'en parles là, c'est que tu as dû fonctionner ou que tu fonctionnes toujours un petit peu avec
Oui,
aussi.
avec bonheur, je m'amuse beaucoup avec ça. L'ermite, par exemple, qui est toujours représenté dans toutes les allégories comme un vieux bonhomme qui cherche dans le fond des choses, avec une petite lumière, heureusement, ce qui lui permet d'aller dans le fond des choses. Mais moi, avec humour, quand je vois quelqu'un qui est un ermite et qui cherche, qui cherche, qui cherche, je lui dis, il faudra peut-être à un moment donné trouver, quoi. Le but de l'ermite, c'est de trouver quelque chose et de se régaler avec, pas de continuer à chercher. Or, nous, dans notre fonctionnement, notamment en thérapie, quand on est malade, on cherche tout ce qui est possible pour guérir, mais on ne passe pas forcément à l'action de guérir. C'est-à-dire qu'on cumule les données, les renseignements, les méthodes, les approches, mais à un moment donné, il faut aussi valider en disant, ben, j'ai fait tout ça, et ben, je mérite de recevoir la guérison, par exemple. Donc, je vais introduire dans ma thérapie une étape de validation, une étape de gratitude envers moi-même, une étape de reconnaissance de mon parcours, et je vais oser m'attribuer ce que je mérite de recevoir. S'il n'y a pas cette étape, on continue de se soigner tout le temps. Mais se soigner tout le temps, est-ce que ça mène à guérir?
Oui, mais moi dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, ça, pour moi, ça lève deux choses. C'est que, premièrement, il y a un état égotique. Ça veut dire quelqu'un qui cherche, en fait, il s'approprie un peu son histoire et il peut y avoir une notion d'ego de se dire, oui, mais moi j'ai compris, donc il cherche parce que ça le valorise. Il peut expliquer aux autres pourquoi de son histoire. Et après, la deuxième chose qui me vient, quand tu dis que ça met du... Enfin, qu'on se base là-dessus, enfin sur le problème, c'est que la guérison, pour moi, on n'en est pas maître. Ça veut dire que tu alchimises, enfin tu malaxes ta vie, ta problématique, et la guérison, enfin pour moi, ce que j'ai pu constater dans ma vie, c'est tu la constates à un moment donné de se dire, ah oui, effectivement, là, aujourd'hui, je fonctionne plus ou je réagis plus comme avant, mais c'est pas un moment précis. Enfin, il n'y a pas de t'appuies sur un bouton, ça y est, je suis guéri. Donc, il y a aussi le cheminement d'aller alchimiser son passé, de fonctionner dans son quotidien d'une manière différente. Pour moi, ça fait un aller-retour de je comprends d'où je viens, d'où sont mes blessures, je m'efforce de mettre en place d'autres choses dans mon quotidien. Mais cet aller-retour, à un moment donné, j'allais dire, la mayonnaise, elle prend, il y a une guérison qui est là, mais on n'est pas maître de la temporalité.
Non, mais par
C'est
contre,
pas
on
juste
peut.
parce qu'on décide de se dire, ah oui, ça y est, je veux me raconter que je suis guéri, que je le suis.
Non,
Tu vois,
ça c'est
donc il y
sûr.
a quelque
Mais
chose où ça prend un certain temps.
oui, mais par contre, alors c'est vrai, mais en même temps, quand on constate souvent dans les parcours thérapeutiques que les gens sont tellement habitués au parcours thérapeutique qu'ils ne s'arrêtent jamais dans ce parcours. Et donc, je pense que c'est intéressant d'introduire dans ce parcours une étape de prise de conscience de là où on en est, pour savoir si peut-être c'est en travaillant le sentiment du méritant, tu vois, je suis digne à un moment donné de recevoir une guérison puisque j'ai fait tout ce qu'il faut, et non pas je continue en bon soldat, ce qui est quand même une habitude humaine, hein, de faire tout ce qu'on me dit, tout ce que je dois faire pour, voilà, si un médecin te dit, moi j'ai souvent des gens à qui on dit vous êtes guéri, donc ils ont eu un cancer, ils ont été soignés, ils ont été opérés, ils ont eu tout le protocole. Et le médecin leur dit, vous êtes guéri. Mais la personne, elle ne sent pas qu'elle est guérie. Elle se comporte encore comme si elle était malade. Elle n'est pas elle n'est pas libre de la maladie. Elle est dans une maladie guérie, mais pas libre de la maladie. Et donc, il lui faut un déclic pour qu'elle se donne le droit, elle, de dire, eh ben, le médecin m'a affranchi de tout risque. Donc, j'écoute, j'entends. Moi, j'avais une intuition. Que j'étais encore lié à ma maladie, mais peut-être suis-je lié aux blessures qui sont en lien avec ma maladie, par exemple aux émotions, au parcours, à l'histoire. Est-ce que j'ai travaillé ça? Ben oui, je les ai travaillés. Donc, résultat des courses, le médecin me dit, je suis guéri. Moi, j'ai travaillé la partie émotionnelle de ma maladie. Peut-être que maintenant, je peux prendre un temps. Et c'est un temps, tu as raison, il est dans le temporel, donc il faut le choisir au bon moment, il ne faut pas l'anticiper, ce qui ne serait pas juste. Il ne faut pas non plus trop tarder, parce qu'il faut profiter de la vie. Et ben, il faut introduire dans sa thérapie une étape de conscientisation de tout le parcours effectué et peut-être d'une opportunité d'oser dire, ça va, j'ai donné, maintenant je passe à autre chose, je tourne une page, quoi. C'est vraiment la symbolique de tourner la page. On va aider des gens comme ça, d'ailleurs, avec des symboles, des supports psychomagiques, hein, de tourner une page.
En fait, moi, ce qui me vient, enfin, là, ça me fait penser à j'accompagne des groupes d'hommes en ligne, et jeudi dernier, c'était la dernière soirée, et je leur ai proposé qu'ils puissent faire un bilan de leur année. Et moi, j'ai joué l'exercice avec eux, j'ai fait moi-même mon bilan de l'année, et en fait, c'est comme si ça avait posé quelque chose en moi, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et d'avoir vu tout le chemin parcouru pour moi, hein, personnel, social, professionnel de l'année, en fait, c'est comme si ce que tu dis, ça a validé le dur. Ah ouais, mais en fait, il s'est vraiment passé ça pour moi sur plein de domaines, et ça a acté que je pouvais passer à autre chose. Mais
C'est
en fait, si
ça.
j'avais pas fait ce bilan-là, en fait, ça aurait été dans l'air, mais il y avait quelque chose qui se serait pas matérialisé, enfin de conscientisé en moi. Et en fait, finalement, je leur ai proposé ça pour eux. Et vu que je l'ai fait avec eux, c'est moi. Ça m'a
Oui.
servi pour moi. C'était exceptionnel de pouvoir sentir à quel point ça prenait corps à l'intérieur de moi au fur et à mesure que je pouvais témoigner de ça, quoi.
C'est
Et je
ça.
trouvais
Alors,
ça
tu vois,
hyper chouette, quoi,
et
d'avoir.
en énergétique, c'est ça. L'accompagnement énergétique qu'on peut faire dans une histoire comme celle que tu décris, c'est de prendre un temps d'énergie pour que l'énergie rentre dans le corps, que dans les esprits, dans le corps, dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme même aussi, tu vois, dans toutes les parties de l'individu, pour que la personne, elle valide partout que l'étape, elle est faite, tu vois. Mais si on continue notre rythme habituel, on passe à côté parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Et donc, il faut le ressentir comme tu l'as vécu là. Tu l'as avec ta bienveillance et ta compassion, tu as voulu le faire aux autres. Mais les autres, finalement, t'ont obligé à le faire pour toi. Et toi, tu dis, je l'ai ressenti. Et là, tu as gagné. Là, tu as vraiment gagné. Alors, ça veut dire que dans l'exercice que tu as fait ce qu'on fait en thérapie. Quand il y a un individu qui vient, qui a besoin de parler toute sa vie, il faut qu'à un moment donné, ils sentent que ça va, quoi. Par exemple, je te donne un exemple. J'ai une gamine de 12 ans que son père m'a amenée. Son père est venu avant une première fois avec son propre père, puis après il est venu une deuxième fois avec son frère et sa fille. Or, il se trouve que sa fille, à 1 an, a fait une leucémie foudroyante. Elle a été soignée pendant 6 ans. Imagine une leucémie pendant 6 ans avec aplasie, risque de mourir, traitements médicaux incroyables, toujours une menace au-dessus de la tête, toujours une crainte que l'enfant ne tienne pas et donc quelque part vraiment une vie très difficile. Les choses se passent et le monsieur m'amène sa fille de 12 ans pour vérifier qu'elle va bien, parce que lui, il est toujours très méfiant, toujours très inquiet pour elle. Donc, il la surprotège. Elle va très bien, elle n'a plus du tout de traitement, hein. Depuis l'âge de 7 ans, c'est fini. Elle est en résilience complète, mais lui, il a gardé la vigilance paternelle. Son amour s'est orienté vers je dois la protéger, il faut que je la surveille, pour pas qu'il lui arrive des trucs. Et elle entend cet amour paternel. Un peu comme, mais il a pas confiance en moi.
Oui, il
Voilà,
croit pas que je suis guéri, il croit pas que
il
je
ne
peux
croit
aller
pas que je
mieux, quoi.
suis guéri, donc il m'aime, mais en même temps, il me regarde d'un drôle d'air, comme s'il pouvait penser que je pouvais être encore malade. Tu vois. Et quand ils sont venus en séance, la jeune fille, moi j'étais surpris parce que j'ai découvert ça en même temps que son père et en même temps qu'elle, c'est qu'elle avançait dans la vie avec cette énergie sur la tête. C'est-à-dire une énergie de protection bienveillante, mais étouffante. Et à 12 ans, prépuberté, elle a besoin que son père la lâche, tu vois. Elle a besoin qu'elle se sente libre de cette leucémie, libre du risque de mourir qui est sur sa tête depuis 12 ans. Et alors, quand on a fait le choix, on a senti que c'était ça le problème qu'il fallait faire. Elle n'avait plus de risque. Elle laissait une place au morbide, alors qu'il n'y avait aucune raison. Du bord, une
Ça
gamine
coupe un tout
comme
petit
ça,
peu.
oui.
Attends, c'est parce que j'ai une connexion un peu instable et ça a coupé. J'ai pas entendu ta dernière phrase.
Je disais qu'une enfant comme ça, elle a vécu toute sa vie avec une présence, une entité autour d'elle qui était la menace de la mort. Et là, aujourd'hui, elle venait s'affranchir de ça pour que quelqu'un dise à son père et lui dise à elle. Mais elle est guérie, il n'y a pas de risque. Donc, vous ne pensez plus à elle comme ça. Et le soin, c'était de lui faire ressentir dans sa chair qu'elle était libre. Que tu as fait toi
Oui,
dans
ok.
ton.
Ouais, il y avait aussi un soin pour son père aussi, qu'il puisse la
Ah
voir
ben
et qu'il
oui.
ait confiance dans la vie qui passe à travers sa fille et que c'était ok, quoi. Il y avait
C'est ça,
un
c'est
double soin.
ça. Alors, en plus, toi, dans ton approche, qu'il ait aussi confiance dans le fait que sa fille avait une belle étoile, parce que franchement, sinon, elle ne sera pas là, que donc, si elle avait une belle étoile, c'est qu'elle a des protections, que la protection ultime, la plus belle qu'on puisse avoir, c'est celle de la terre-mère. Et donc, que papa-maman, c'est gentil, mais au bout d'un moment, c'est beaucoup moins fort que les protections naturelles, quoi, les protections archétypales naturelles, hein, la terre, le ciel. Et elle est repartie dans cette vastitude de protection avec un père qui peut utiliser son énergie autrement maintenant, du coup, hein, qui pourrait peut-être refaire sa vie, qui pourrait peut-être devenir thérapeute, je crois que c'est ce qu'il a envie de faire. Et puis sa fille qui peut voguer, quoi. Elle peut prendre le navire et puis roule.
C'était super. Et est-ce que tu fais des formations en lien avec ces dynamiques archétypales? Est-ce
Oui,
que tu
alors.
formes les thérapeutes à...
Alors, je fais des formations en thérapie archétypale depuis, ben, depuis 20 ans. Et avec les nouveaux systèmes et les nouvelles conditionnements, on va dire, j'ai mis en place des formations en ligne. Donc, un
OK.
mélange, en mélange, cette année, par exemple, je démarre les formations fin janvier sur un cycle de 10 modules de 48 heures chacun en ligne. Et avec 8 modules, 7 modules en ligne et 3 modules en présentiel pour l'énergétique. Et en fait, dans ces modules, on apprend trois choses. On apprend le concept de thérapie archétypale avec les archétypes, la classification des archétypes. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans cette classification des archétypes, les 22 archétypes, il y en a 11 qui sont des archétypes de démarche. Donc, le thérapeute peut initier, provoquer, inciter. Par exemple, le lâcher-prise, le détachement, le pardon, l'intelligence, la corporisation, tout ça, c'est des archétypes de démarche, hein. Il faut un effort pour y arriver. Et souvent, quand il y a un effort, ben, être accompagné, ça permet de trouver comment faire l'effort. Donc, le rôle du thérapeute est important. Après, il y a 11 autres archétypes d'état, comme par exemple l'amour et la haine, comme par exemple la confiance ou la peur. Et ces archétypes-là, ces archétypes d'état, sont modifiés par les archétypes de démarche. Donc, il y a des archétypes qui sont très actifs et puis et qui vont changer la tonalité des archétypes dominants, qui sont les archétypes d'état. Donc, voilà, donc on apprend la classification, comment ça fonctionne le concept de thérapie archétypale, comment marche la dynamique du passage de l'ombre à la lumière, de la problématique à la ressource, c'est-à-dire le temps qu'il faut y mettre, les outils qu'il faut utiliser pour libérer le corps de souffrance et stimuler ce qu'on pourrait appeler son équivalent lumineux, le corps de gloire. On apprend également le tarot, des archétypes et son tirage, avec des tirages courts et des tirages longs. Et puis on apprend la technique de soins énergétiques que j'ai mis en place, qui s'appelle la bio-psycho-synergie, et qui est en fait une technique de soins qui permet de le libérer du corps, des énergies qui sont bloquées dans des lieux du corps qui sont toutes symboliques, sont rattachées à la circulation des méridiens, des nerfs, des centres, des vortex, des centres énergétiques, etc. Donc en fait, il y a trois formations qui sont appliquées à cette formation de 10 modules et elles durent donc une année, c'est un module par mois jusque donc en novembre prochain.
Okay. Et c'est des formations accessibles aux professionnels ou finalement à toute personne intéressée?
Alors, on va dire qu'il y a deux voies. Il y a la voie, c'est bien évidemment ouvert à tout le monde parce que j'aime pas du tout comment dire, évaluer ou voir de premier abord qui est capable, qui n'est pas capable. Ce n'est pas à moi de le faire. Par contre, il y a une envie spontanée de rentrer dans ce type de thérapie globale, holistique, qui est ouverte à tout le monde. Et donc, il y a des gens qui font cette formation pour bien se comprendre et donc peut-être se soigner ou tout simplement changer, comprendre sa famille, sortir d'un problème et comprendre le monde différemment. Donc, par exemple, je vais avoir des gens qui ont été éprouvés par une maladie, qui ont changé de façon de penser et qui se disent que ils sont prêts à apprendre à penser autrement. Donc, ils vont faire la thérapie archétypale pour apprendre à penser autrement. Il y en a d'autres, des thérapeutes. Alors, ça peut être des thérapeutes avec des très belles approches bien conditionnées, comme par exemple le coaching, comme par exemple la psychanalyse, psychologue clinicienne, d'autres thérapeutes qui ont leur technique très propre, très personnelle et qui ont besoin d'ouvrir leur esprit. Et à ce moment-là, ils appliquent ils associent ce qu'ils ont appris de rigoureux, de technique, à une approche plus holistique et ils vont l'adapter à leur façon. Donc, en fait, on va dire que c'est ouvert à tout public, mais la prédestination de devenir thérapeute analyste énergéticien n'est pas la vocation première de cette formation. On peut devenir thérapeute, bien entendu, ou on peut tout simplement devenir un bon compagnon, une bonne compagne, un bon papa, une bonne maman, un bon malade, un bon soigné, un bon médecin aussi. Ça m'arrive d'avoir des médecins, hein, des médecins, des avocats, des gens comme ça qui soignent les autres, chacun à leur façon, et qui ont besoin d'ouvrir leur cœur, de se protéger autrement, de voir les autres avec plus de joie que de faire simplement que de les protéger ou que de les soigner, mais de comprendre que ça touche aussi l'âme. Qu'on fait tous maintenant, je crois.
Ouais. C'est même parce que j'allais te parler un petit peu de ça. Tu finis là-dessus. Parce que dans les mots que tu as eus au tout début de notre entretien, tu as dit un petit peu que. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Hein. C'est que souvent, si on choisit telle famille, c'est qu'on a envie de venir comme à l'école, on a une problématique à régler et on choisit le cadre parfait qui va nous mettre dans cette situation. Bah, je pense que. Comment tu vois tout ça? Parce que, enfin, où t'en es par rapport à tout ça? C'est à l'âme qui arrive et qui vient faire un apprentissage et.
Alors, tu sais, j'avais envie de t'interrompre, mais c'est bien que tu étais jusqu'au bout, parce que je n'ai pas dit qu'on venait pour régler une problématique. On peut
Oui, j'en
aussi
ai.
venir, voilà, on peut aussi venir parce qu'on est compétent pour quelque chose. Eh oui, c'est ça, voilà. Je pense que toi, par exemple, et moi aussi, et peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent, nous sommes des âmes à vocation collective. C'est-à-dire qu'on sera vraiment heureux dans ce monde que si on a le sentiment, pour le dire en toute simplicité, de faire du bien à l'humanité tout entière. Sinon, on a l'impression de passer à côté de ce dont on est capable. Donc, ça veut dire qu'une âme a vocation collective, il faut qu'elle trouve les moyens de, tout en faisant du bien à des individus ou à des groupes d'individus, par exemple, toi, tu vas faire du bien à des groupes d'hommes, tu as choisi un groupe sociétaire, un groupe social particulier qui est très important parce que l'identité masculine est en train de muter. Donc, tu choisis des petits groupes de cette identité masculine et de groupe en groupe, avec tous les gens qui font ça et qui sont solidaires et qui travaillent probablement d'âme à âme dans une famille d'âmes, eh bien, on va bouger le masculin comme le féminin a été bougé ces dernières dizaines d'années, quoi. Et là, donc, du coup, je pense que là, nous allons arriver à ce qui nous plaît, c'est-à-dire à pouvoir permettre à cette humanité prochaine, cette humanité qui est là, de vivre ce qu'elle est capable de vivre. Les enfants qui viennent aujourd'hui sont faits pour le monde de demain, ils ne sont pas faits pour le monde d'hier. Ils sont même pas faits pour le monde d'aujourd'hui, ils sont faits pour le monde de demain. Et donc, nous, on est les passeurs. Alors, toi, tu es jeune, moi, génération du dessus, hein, mais on est pas des nouvelles. Je ne me sens pas être un nouvel homme, tu vois. Je me sens être un préparateur de nouvel homme, peut-être, et conscient que les vieux schémas nous vont comme des bretelles à un lapin. Et que les nouveaux schémas, on n'est pas encore prêt à les adopter parce que, on a une mutation à mettre en place et nous sommes des aides à la mutation.
Ouais, on est les laboureurs, nous on a préparé le terrain pour les pousses prochaines
C'est
qui
ça.
vont germer avec des nouvelles données, un nouvel ADN, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors, je dis pour les gens qui nous regardent, mais j'interviewerai Bernard prochainement. Vous aurez ça en exclusivité en 2023 sur la sortie de son livre, Tu seras un nouvel homme, mon fils. C'est une petite parenthèse, mais parce qu'on touche un peu le sujet, mais on le développera dans un autre interview, si ça vous intéresse. Est-ce que Bernard, tu as envie de rajouter quelque chose en lien avec la thérapie archétypale tu vois quelque
Oui,
chose d'important qu'on n'aurait pas
peut-être
abordé
que ce que je pourrais dire pour terminer ça, c'est que la thérapie archétypale, Moi, ce qui m'a plu dans la thérapie archétypale, bon, je n'étais pas du tout prédestiné au départ dans mon ego à être thérapeute. Hein. J'ai fait d'autres choses. Puis à un moment donné, la vie a été bousculante et donc je me suis retrouvé sur un siège de thérapeute que je n'avais pas envisagé quelques années auparavant. Et après, une fois sur ce siège, je me suis dit, je suis à ma place. Donc là, il y a eu vraiment une espèce de synchronicité entre mon désir personnel et l'intention de mon âme. Je me suis dit, je suis vraiment là, je suis là pour aider à soigner. Et en plus, j'ai compris longtemps que je ne pourrais pas soigner normalement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer dans une case. Voilà. À chaque fois que je rentrais dans une case, j'en sortais heureux, mais pour faire autre chose. Donc, ça a toujours été compliqué. Donc, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que c'est ce qui m'a le plus et ce qui me touche encore 30 ans après dans cette thérapie et qui m'émerveille par moments. Les moments, ils sont suffisants pour qu'on soit émerveillé à long terme, mais on n'est pas émerveillé tous les jours, quoi. Ça va être une fois tous les 2 mois, 3 mois, un moment d'émerveillement, mais ça suffit pour te remplir de certitude. Tu vois. Voilà. Il faut quand même la petite goutte merveilleuse de temps en temps pour qu'on ait l'étincelle de vie. Et donc, ce qui est fantastique dans la thérapie archétypale, c'est qu'on ressent qu'on travaille pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un objectif humaniste derrière, pas humanitaire, hein, humaniste. Voilà. On sait que notre humanité est en mutation, qu'on sait aussi et on sent que nous avons été peut-être probablement d'autres fois présents sur cette planète dans une humanité en mutation, et qu'aujourd'hui on est vraiment dans un rôle qu'on a pu déjà jouer, mais qu'il faut jouer encore différemment, avec plus de compassion, avec plus d'acceptation de ce qu'est notre humanité. Je crois que l'expérience du Covid, c'est ça, hein, l'expérience de tout ce qu'on a appris à savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait les choses. Et malgré que l'on sache les choses, on ne croit pas en ce que l'on sait, c'est quand même le comble, quoi, tu vois. Avant, on croyait sans savoir, maintenant, on sait et on a une nouvelle étape à franchir. Et donc, ce que je peux dire, c'est que pour les gens intéressés pour faire du bien aux autres, individuellement, collectivement, par groupe, comme tu le fais, ou pour travailler sur l'humanité, la thérapie archétypale, elle se positionne bien parce qu'elle nous fait sentir à chaque fois qu'on va travailler sur ces couches-là différentes, individus, familiales, collectifs. C'est une thérapie humaniste. Et très respectueuse de toutes les thérapies qui existent, presque, je dirais, fédératrice d'une synergie d'action. Elle donne de la place à toutes les méthodes qui existent, mais c'est l'esprit qui change. Voilà. C'est ça.
Merci Bernard pour tous ces mots, tout ce temps de partage. Merci. Vous verrez dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien du site de Bernard, le lien de ses formations aussi. Je pense que si, je peux laisser, enfin peut-être ton, je ne sais pas si tu veux que je laisse ton mail et puis s'il y a des gens qui ont des questions éventuellement qui peuvent te contacter. Enfin voilà.
Avec plaisir.
Donc, et ben, si vous voulez, si vous aimez la dynamique archétypale, la thérapie archétypale, que vous voulez aller vous former, vous pouvez aller voir Bernard Chomeil, qui sera là pour vous renseigner, puis vous enseigner tout ça. Nous, on se retrouve donc en janvier ben, pour l'interview de ton livre, qui est sorti il n'y
Avec
a pas
plaisir.
longtemps, que je suis en train de terminer, donc bientôt, bientôt, ça sera prêt. Eh ben merci pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Pareil, si vous aimez ces vidéos, ces séries d'interviews, n'hésitez pas, likez-les, partagez-les, faites des petits commentaires pour que les algorithmes de référencement ils nous proposent de plus en plus. Merci Bernard de cet échange.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt. Et
Et
merci de
puis.
ta belle énergie.
Ouais, et puis, Merci. Et belle année à ceux qui vont nous regarder. Voilà. À bientôt tout le monde. Au revoir.